Il m'est déjà arrivé des événements tellement désagréables et humiliants que je ne veux pas que quelqu'un les sache. Ce qui fait que je suis resté et reste encore bouche cousue jusqu'à ce jour. Avec le temps, leurs souvenirs douloureux s'est quelque peu estompé, mais ce qui en reste, j'ai bien l'intention de l'amener avec moi dans la tombe. Je continue de lire dans le premier chapitre du livre de Michée. Ne le proclamez pas dans la ville de Gath, ne pleurez pas dans Akko, gens de Beth-Léafra, couvrez-vous de poussière. Gath est l'une des principales villes des Philistins. En hébreu, son nom fait assonance avec « proclamer ». Mais Michée dit « ne le proclamez pas dans Gath », parce que le prophète s'imagine la joie qu'éprouveront les ennemis d'Israël, les Philistins, les Cananéens, quand se réalisera la ruine de Samarie, capitale d'Israël Nord. Où les mots « ne le proclamez pas dans Gath » se trouvent aussi dans la complainte funèbre de David sur la mort du roi Saül. Cette allusion est d'autant plus significative que les deux royaumes israélites perdirent leur roi quand ils furent conquis. Ne pleurez pas dans Akko. En hébreu, dans Akko est l'infinitif du verbe pleurer. Aujourd'hui, Saint-Jean d'Acre est situé au pied du mont Carmel, sur la côte phénicienne et à 14 kilomètres au nord-est du port de Haïfa. Akko est une ville frontière comme Gath, mais elle n'a jamais appartenu à Israël, bien qu'elle fasse partie de l'héritage de la tribu d'Aser. Jean de Beth-Léafra, un nom qui signifie « maison de poussière » et qui se trouve à environ 6 kilomètres de Bethel, dans la tribu de Benjamin. Michée dit « couvrez-vous de poussière », ce qui est l'une des façons dont, à cette époque, les gens expriment leur profonde détresse. Je continue le texte. Habitants de Shaphir, allez nus et honteuses, le peuple de Tsaanan ne sortira plus de sa ville, et le deuil de Ben Haïtzel vous prive de son soutien. Shaphir signifie « belle ville ». Elle se trouve au sud-ouest de Juda. Sa population est personnifiée par une jeune fille nue et honteuse, parce que exilée, ce qui contraste avec la beauté de la ville. Tsaanan signifie « sortir ». Mais Michée dit que ses habitants ne pourront plus sortir de leur ville, parce que encerclés derrière leurs murailles par l'invasion ennemie. Beth Hatzel désigne une localité à l'est du mont des Oliviers près de Jérusalem. Ce mot signifie « maison d'à côté », dans le sens de refuge. Mais, dit Michée, elle vous prive de son soutien, ce qui signifie que les défenseurs de Beth Haïtzel battent en retraite vers Jérusalem, amenant avec eux les réfugiés de Tsaanan et de Shaphir qui s'étaient réfugiés dans Beth Haïtzel. Je continue. Le peuple de Maroth se tord d'angoisse à cause des biens perdus, parce que le malheur est venu envoyé par l'Éternel jusque devant ses portes, Jérusalem. Maroth se trouve dans les montagnes de Juda, et le mot fait assonance avec amertume. La rancœur de cette gens, des gens de cette ville, est due à l'invasion des Assyriens. Je continue. Habitants de Lachish, attelez les coursiers aux chars, car vous êtes à l'origine du péché de Sion. C'est bien chez vous que l'iniquité d'Israël a été trouvée. Lachish est une grande ville fortifiée de Juda, située à 45 kilomètres au nord-ouest de Jérusalem. Elle fut conquise par Sennachérib, roi d'Assyrie. Au musée britannique de Londres se trouve un bas-relief qui représente le roi assyrien assis sur son trône, tandis qu'on fait passer devant lui le butin de guerre, saisit à Lachish, une ville renommée pour ses chevaux. Or, en hébreu, Lachish fait assonance avec le mot pour coursier. Michée dit donc, habitants de la ville des coursiers, attelez vos coursiers, dans le but évident d'échapper aux envahisseurs. Les livres historiques ne nous disent pas quel rôle Lachish a joué dans l'introduction de l'idolâtrie en Juda. Il se pourrait cependant que ces événements eurent lieu sous le règne de Joram, fils du roi Josaphat. En effet, il épouse Athalie, la fille d'Akab et de Jézabel, aussi tigresse que sa mère, et qui entraîna Joram dans de grossières pratiques païennes. Je continue le texte. Voilà pourquoi tu, Juda, devras verser une dot à Moretchet Gat. Moretchet ressemble au mot hébreu pour fiancé. Michée veut dire que Juda devra céder la ville de Moretchet Gat et donner bien d'autres présents encore à un autre, à son nouveau maître qui est Sennachérib, roi des Assyriens. Comme Moretchet signifie propriété, possession, héritage, un autre jeu de mots est possible. Le sens est alors tu devras renoncer à la possession de cette possession. Je continue le texte. Et les maisons d'Akrib seront une cause de déception pour les rois d'Israël. Akrib est situé dans la plaine de Juda. Son nom fait assonance avec Akzab, qui signifie mensonge, déception, ou encore ruisseau menteur, un peu comme ceux que rencontrent en été les voyageurs assoiffés, mais qui déçoivent leur espérance, parce qu'ils sont à sec. Aucun secours ne viendra de cette ville, car elle sera perdue pour les rois d'Israël. Un pseudonyme ironique pour le roi de Juda, parce que, comme les rois d'Israël, Joram s'est détourné de l'Éternel pour servir les idoles. Je continue. Je t'amènerai un nouveau conquérant, habitante de Marécha. La gloire d'Israël s'en ira jusqu'à Aboulam. Marécha est une ville fortifiée de Juda. Ce nom ressemble au mot hébreu « héritage ». Michée dit donc quelque chose comme « Je t'amènerai un nouveau héritier qui s'emparera de ton héritage ». Aboulam est la caverne proche de Bethléem où David se réfugia quand il fuyait du roi Saül. Le roi de Juda de la dynastie de David va se trouver dans une situation tout aussi précaire que son ancêtre David. Je finis de lire le premier chapitre du livre de Michée. Rasez-vous donc, arrachez vos cheveux, habitants de Jérusalem, en signe de douleur à cause de vos filles qui font tous vos délices. Oui, rasez-vous la tête pour que vous soyez chauves, pareil à des vautours, parce qu'ils vont être amenés loin de vous en exil. Après que Job ait perdu tous ses biens et ses enfants, le texte dit « Alors Job se leva, il déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre pour se prosterner. » Se raser entièrement la tête est le signe d'une très grande détresse, mais qui est interdit par la loi de Moïse. Le vautour auquel Michée fait référence est probablement le vautour d'Égypte, très commun en Palestine. Il a le front et le sommet de la tête complètement dégarnis. Ici, le prophète est très moqueur, mais il prononce ces paroles avant que le malheur ne survienne, afin que les habitants se repentent de leurs péchés et que l'inévitable jugement divin soit différé. Dans sa description des villes prises par les ennemis d'Israël, Michée a d'abord en vue l'invasion assyrienne et pour de bonnes raisons, car dans les annales, Sennachérib rapporte avoir déporté 200 000 personnes des villes et villages de Juda. Cependant, la prophétie va plus loin car elle télescope et englobe toute la série de châtiments qui frappera Juda jusqu'à la fin de la nation et la déportation babylonienne. Nous arrivons au second chapitre du livre de Michée. Dans le premier, le prophète donne une vue d'ensemble du jugement qui frappera les deux royaumes israélites à cause de leurs pratiques idolâtres qui marient l'adoration des fausses divinités et la prostitution sacrée. Maintenant, Michée se préoccupe des péchés qui sont les abus d'ordre social. Il censure particulièrement les comportements scandaleux dont se rendent coupables les classes supérieures de Jérusalem et surtout des différentes formes d'oppression dont est victime le petit peuple. Ces violations flagrantes de l'alliance de la loi vont déchaîner la colère de Dieu et seront punies par l'exil. Ensuite, Michée s'en prend aux faux prophètes qui respirent le mensonge et entretiennent l'illusion que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Confortant ainsi les grands dans leur conduite coupable, il justifie ses menaces en ajoutant de nouvelles fautes au tableau sinistre qui vient de tracer de l'état du peuple de Juda. Enfin, il termine dans une brève promesse du rétablissement de Jérusalem et d'Israël après le châtiment désormais inévitable. Je commence de lire le second chapitre du livre de Michée. « Malheur à ceux qui méditent le mal et trament des méfaits tout au long de la nuit. Au point du jour, ils vont les accomplir en profitant de leur pouvoir. Ces accusations sont dirigées contre les dirigeants du pays qui coulent des jours et grassouillaient dans la capitale. Ils possèdent les richesses et détiennent le pouvoir, ce qui leur permet d'accomplir toutes les exactions qu'ils désirent. De plus, ils donnent au reste du peuple le très mauvais exemple d'une conduite hautement répréhensible dont le prophète qui habite Jérusalem est le témoin indigné. Michée s'adresse d'abord à ceux qui conçoivent délibérément le mal dans leur cœur et qui consacrent la nuit à préparer la prochaine journée de rapine. Il s'agit de propriétaires âpres aux gains et d'usuriers qui font tellement obsédés par le désir de s'enrichir, sans délai et par fraude, qu'au lieu d'aller dormir, ils profitent des ténèbres pour penser à une manigance criminelle qui leur permettra de dépouiller un homme du peuple sans défense. Puis ce méchant homme réfléchit comment s'y prendre et prépare ainsi, dans sa tête, les détails de son méfait. Finalement, le jour venu, il met son plan machiavélique à exécution grâce à son pouvoir, car il a pour seul Dieu son bras, et non d'autre loi que sa volonté. Tout le monde sait en effet que la puissance fait le droit, et la loi du plus fort est toujours la meilleure. Michée prononce une malédiction sur ces mécréants, car l'une des charges de tout prophète de l'Éternel et de dénoncer la conduite coupable des individus impies. Je continue le texte. Ils convoitent des champs, ils s'en emparent, des maisons, ils se les prennent, ils oppriment par la force les gens, les dépouillant de leur habitation et de leur terre. Ils convoitent est le même verbe que dans le 10e commandement « Tu ne convoiteras pas ». Ces monstres sanguinaires ne tiennent aucun compte de la loi. Pourtant, dans les livres de l'Exode, il est écrit noir sur blanc. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient. Les commandements destinés à prévenir la convoitise enseigne aux Israélites et à nous que pour l'Éternel, les pensées ignobles sont tout aussi coupables que les actions qui enfreignent la loi. Ici, c'est encore pire puisque Michée mentionne des méfaits qui sont froidement délibérées avant d'être froidement exécutées. Le premier livre des rois raconte une histoire particulièrement sordide qui s'est passée dans le royaume d'Israël Nord. Le roi Achab, qui se comporte en enfant gâté, veut acheter une vigne adjacente à son palais pour y cultiver des légumes. Oui, mais elle appartient à un petit Israélite appelé Naboth, qui refuse de la lui vendre parce qu'elle fait partie de son patrimoine familial. Alors le roi va pleurer dans les jupes, non de sa mère, mais de sa femme, la tigresse Jézabel, qui le console sur ses genoux et lui jure qu'elle trouvera le moyen de s'emparer de cette vigne. Aussitôt dit, aussitôt fait. Elle conçoit un stratagème pour faire assassiner Naboth, ce qui permet à son mari Achab d'annexer la vigne, et le tour est joué. Oui, mais le couple royal n'a pas apporté ce crime au paradis, car cet acte abject est la goutte d'eau proverbiale qui fait déborder le vase. Le prophète Élie leur rend alors visite pour leur faire connaître la sentence prononcée par l'Éternel, une condamnation sans appel bien méritée et qui fut exécutée en temps voulu. Aujourd'hui, dans les pays dits civilisés, les autorités ou les hommes d'affaires n'éliminent pas les propriétaires gênants à coups de pierre, mais il existe d'autres moyens plus subtils et tout aussi efficaces. La menace de fermer une entreprise et de la localiser dans un autre pays fait trembler tout le monde. C'est comme un rouleau compresseur qui écrase tous ceux qui voudraient s'occuper au principe sacro-saint du capitalisme sauvage. Que des ouvriers qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts se retrouvent sur la paille n'est pas le problème des grands patrons ou des investisseurs dont le seul souci est d'engranger un maximum de fric. Dans le livre du prophète, on lit « La sangsue a deux filles. Elles s'appellent Donne et Donne. Cette maxime est drôle jusqu'au jour où on est mordu par la sangsue et pris en tenaille par ses deux filles. Salomon était peut-être l'homme le plus riche de son temps, donc il sait de quoi il parle quand dans le livre de l'Ecclésiaste il écrit « Qui aime l'argent n'en aura jamais assez, et qui se complaît dans l'abondance ne sera jamais satisfait de ses revenus. » Cela encore est dérisoire. Au moment du partage du pays de Canaan, chaque famille israélite reçoit un héritage des terres qu'il doit lui appartenir à perpétuité. Dans le livre du Lévitique, la loi spécifie que la terre ne devra jamais être vendue à titre définitif, car le pays m'appartient, dit l'Éternel. Et vous êtes chez moi des étrangers et des émigrés. La propriété du pauvre pourra être achetée, mais pour un temps limité, car la loi établissait un droit de rachat destiné à empêcher la formation en Israël d'une part d'une classe permanente et sans domicile fixe, et d'autre part de grands propriétaires qui concentrent tous les biens fonciers entre leurs mains. Je lis ce passage tiré du livre du Lévitique. Si ton compatriote devient pauvre et doit vendre une partie de son patrimoine foncier, un proche parent qui a le droit de rachat pourra racheter ce que son parent aura vendu. S'il ne se trouve personne qui ait le droit de rachat, mais que cet homme retrouve des ressources suffisantes pour racheter lui-même la terre, il considérera le nombre d'années écoulées depuis la vente et versera le prix des années restantes à l'acquéreur. Ainsi, il rentrera en possession de sa propriété. Mais s'il ne trouve pas les moyens de racheter sa terre, elle restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. À ce moment-là, elle lui sera rendue et il en reprendra possession. Les règles sont tellement strictes que les terres ne peuvent même pas changer de tribu. Dans le livre des Nombres, on lit « Le patrimoine foncier des Israélites ne passera pas d'une tribu à l'autre et chaque Israélite restera attaché au patrimoine foncier de la tribu de ses ancêtres. » Si dans l'une des tribus des Israélites, une fille hérite d'un patrimoine foncier, elle devra épouser un homme d'une famille de la tribu de son père, afin que chaque Israélite conserve intact le patrimoine foncier de ses ancêtres. Aucun patrimoine ne pourra être transféré d'une tribu à une autre. Chaque tribu des Israélites restera attachée à son patrimoine foncier. En s'emparant des propriétés des faibles, par force ou par ruse, les grands foulent aux pieds la loi de Dieu, sans parler des principes universels de justice et d'humanité qu'ils outragent. C'est à eux qu'Ésaïe dit « Malheur à vous, qui joignez maison à maison et ajoutez un champ à l'autre au point d'occuper tout l'espace et d'être seul dans le pays. » Les filles de Sion se sont enorgueillies. Regardez-les qui marchent en redressant les têtes, le regard provoquant. Elles s'avancent à petits pas, en faisant résonner les anneaux de leurs pieds. Ces mêmes abus sont évidemment perpétrés par les classes dirigeantes du royaume voisin des 10 tribus du Nord, auxquelles le prophète Amos dit « Écoutez bien ceci. Ô vaches de Bazan qui demeurez sur les montagnes de Samarie, qui opprimez les pauvres, qui maltraitez les indigents, vous qui dites à vos maris, apportez-nous à boire. » Je continue le texte de Michée. C'est pourquoi l'Éternel déclare, contre cette nation je projette un malheur. Il sera comme un joug dont vous ne pourrez plus vous dégager le cou. Vous ne marcherez plus la tête haute, car ce temps qui arrive est un temps de malheur. Le prophète Amos, qui a précédé Michée, écrit « Un malheur viendra-t-il frapper une cité à moins que l'Éternel en soit l'auteur ?» Michée a commencé ce paragraphe en disant « Malheur à ceux qui méditent le mal. » Voilà pourquoi c'est maintenant à l'Éternel de dire « Contre cette nation, je projette un malheur, tout comme les grands du royaume méditent de faire du mal à leurs prochains. L'Éternel va leur rendre l'appareil pour les punir. Le jeu de mots qu'on peut faire en français entre mal et malheur est le même en hébreu. Michée présente le châtiment à venir sous la forme d'un joug pesant sur lequel les coupables seront forcés de courber la tête. Ce sera la juste rétribution des violences qu'ils ont exercées contre leurs prochains. Ce joug est celui de la conquête assyrienne, puis babylonienne, et la captivité. Les classes dirigeantes connaîtront le même esclavage que leurs ancêtres. Après les en avoir fait sortir, Dieu leur a dit « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte et vous ai libéré de l'esclavage. J'ai brisé les barres de votre joug et je vous ai fait marcher la tête haute. » La tête haute est une marque de fierté, mais elle sera remplacée par la tête courbée sous le joug de l'ennemi et les pieds dans les chaînes. Tel sera le châtiment des classes dirigeantes d'Israël. Contrairement à une idée pourtant répandue, nul n'échappe au filet de Dieu. Un jour ou l'autre, chacun d'entre nous doit lui rendre des comptes.